Je ne sais pas vous, mais quand les histoires de musique classique nous sont contées par Patrick Leterme, eh bien c'est un petit moment de bonheur. Ce matin, découverte de l'œuvre de Gershwin, Rhapsody in Blue.
Je sais pas vous.
C'est.
Ça parle de quoi?
Ah, ça parle de musique.
Ça parle de quoi?
Ça parle de vous. Pour moi, le glissando de clarinette qui monte vers le ciel au début de Rhapsody in Blue, c'est le symbole du rêve américain. The sky is the limit. Mais le vrai instrument soliste dans Rhapsody in Blue, c'est pas la clarinette, c'est le piano. Un jour de janvier 1924, Gershwin, au bord de la piscine, avale de travers en lisant le journal. Un chef d'orchestre y annonce « Gershwin travaille sur une pièce pour piano et orchestre qui sera créée le mois prochain ». L'échéance du projet n'était pas fixée et surtout pas pour le mois prochain. Donc, panique. Conséquence, Gershwin va composer la musique, mais il va déléguer l'orchestration, c'est-à-dire la réalisation de toutes les partitions des instruments. Ensuite, au moment du concert, dans les passages où le piano joue seul, Gershwin improvise, car il n'a pas eu le temps de tout écrire. Et enfin, Gershwin ne va pas chercher à écrire une grande partition classique bien structurée, du genre concerto, sonate ou symphonie. Non, il va plutôt utiliser le mot qui en musique veut dire ouais, « le compositeur fait ce qu'il veut ». Il écrira une rhapsodie. Et il met dedans du blues, avec la blue note, la note bleue un peu plaintive du jazz naissant. Et ça donne Rhapsody in Blue. Rhapsody in Blue est un overnight success. Du jour au lendemain, Gershwin a fait tomber une barrière entre les styles classiques et jazz. Il a ouvert un boulevard pour que puisse exister une musique classique, symphonique, populaire et surtout American à la fois. Oncle Sam peut être fier de Gershwin qui disait « La vraie musique doit reproduire la pensée et les inspirations du peuple et de l'époque. Mon peuple, c'est les Américains. Mon époque, c'est aujourd'hui. » Mais attention, chez l'oncle Sam, et particulièrement dans les années 20, le cours du rêve américain peut s'envoler un jour. Mais se cracher soudain, le lendemain.
Je sais pas vous, une belle chronique qui nous apprend à découvrir l'univers du classique et à retrouver également sur notre site Ovio. Ajout à suivre, un jour dans l'histoire du monde, on retrouvera Danielle Kriegel, notre correspondante à Tel Aviv, et ainsi que Ilios Kotsou qui vient de nous rejoindre dans le studio de la première. À tout de suite.
Adrien Jovenot présente les trophées des Belges.
Qui gagnera notre trophée catégorie culture? Made in Rwanda de Simon Huperetz, Street Art de Liège à Singapour de Didier Mathieu ou la ferme organique de Manu Hubert en Thaïlande. À vous de voter avant le 8 novembre pour ces pépites qui font briller la Belgique à l'étranger. À découvrir aussi dans La Libre ce lundi et sur rtbf.be/trophées des Belges.
Avec le soutien de Wallonie-Bruxelles International, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Libre Belgique.
Les Belges du bout du monde, le dimanche de 9h à 10h sur la première.
Et 24h sur 24 sur RTBF Ovio.
Le 13 septembre 1993 fut une date historique. Yitzhak Rabin et Yasser Arafat se serraient la main sur la pelouse de la Maison Blanche à Washington. Danielle Kriegel, on pensait que cela ouvrait une ère de paix.
Oui, mais très vite, la violence a pris le dessus. La droite israélienne et les colons, conduits par Benjamin Netanyahou, ont organisé des manifestations très importantes contre cet accord considéré par eux, je les cite, comme une concession au terrorisme. Quelques mois plus tard, un extrémiste israélien massacre 29 fidèles musulmans dans le caveau des patriarches à Hébron. Le Hamas, opposé lui aussi aux accords d'Oslo, commet alors des attentats suicides en territoire israélien. Il y a des dizaines de morts. Yitzhak Rabin déclare qu'il faut négocier comme s'il n'y avait pas de terrorisme et combattre le terrorisme comme s'il n'y avait pas de négociation. C'est ainsi qu'Arafat est arrivé à Gaza au mois de mai 1994 dans un territoire évacué par l'armée israélienne.
Un nouvel accord a été conclu en septembre 1995. Il concerne la Cisjordanie.
En effet, cette fois, ce sont les grandes villes de Cisjordanie qui doivent être évacuées. Pour la droite israélienne et les colons, c'est inadmissible. Les manifestations s'amplifient. On y entend des cris « mort à Rabin », « Rabin traître », « Shimon Peres égale Laval » et « Rabin Pétain ». Benjamin Netanyahou, qui est à la tête de ce mouvement, affirme avoir demandé aux manifestants de ne pas scander de tels slogans. En tout cas, l'accord est adopté de justesse par la Knesset, le Parlement, le 5 octobre, dans une atmosphère d'extrême tension. Rabin est régulièrement insulté par des militants de droite. Finalement, la gauche se ressaisit. Une grande manifestation est organisée en faveur de la paix et contre la